Merci beaucoup à notre troupe d'acteurs ce matin. Merci d'avoir montré que le mal est mal, mais que la victoire appartient à Dieu. Et lui, il a eu la victoire sur le mal et il a rejeté la puissance des ténèbres en arrière. Et nous proclamons la victoire de Jésus-Christ.
Alors, pour poursuivre et pour reprendre aussi un peu le texte qui a été introduit ce matin dans Jean 20, donc qui est le récit de la résurrection, je vous invite à sortir vos Bibles pour ceux qui ont leur Bible et de prendre Jean 20 et on va regarder ensemble les versets 19 à 31. Mais je vais commencer simplement par le verset 19. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous. » Donc comme on l'a déjà vu au début de ce passage que j'ai lu ce matin, Marie de Magdala, le matin de ce dimanche, avait averti Simon-Pierre et un autre disciple que le tombeau était ouvert. Donc les deux disciples ils sont arrivés en courant, ils ont constaté que Jésus n'était plus dans son tombeau et ils sont simplement retournés chez eux. Marie est restée près du tombeau en pleurs face à ce qu'elle pensait être l'enlèvement du corps de Jésus. Mais ce dernier se montre à elle et lui dit d'avertir les disciples qu'elle l'a vu, qu'il est vivant, qu'il est vraiment ressuscité. Donc jusqu'à là, les disciples ils ont vécu ce qu'on pourrait appeler un traumatisme ou un choc assez important. Même si Jésus il avait annoncé plusieurs fois qu'il allait mourir, mais qu'il reviendrait, ils ont assisté à sa mort, à son arrestation déjà, à sa mort, à sa crucifixion, à son arrestation, la torture, un peu la totale. Et voyant leur maître subir toutes ces choses, on comprend bien qu'ils sont dans un état pitoyable. Et voilà maintenant que le corps de Jésus, en plus de tout ça, a disparu. Donc en plus de ça, ils sont persécutés. Et par crainte, ils se sont enfermés dans une maison par peur des chefs religieux. Mais malgré tout, dans ce lot d'émotions, Jésus, bien ressuscité, se présente à eux pour la première fois. Et la première chose qu'il leur dit, c'est que la paix soit avec vous.
Que la paix soit avec vous. Et après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « Que la paix soit avec vous. » Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Amen. Jésus arrive là au milieu des disciples et cette parole pose le cadre, que la paix soit avec vous. Et comme Sidi le disait, ils étaient traumatisés, ils ne savaient plus où ils en étaient. Et on peut imaginer peut-être même des gémissements, des pleurs dans cette salle, que faisons-nous? Et tout à coup, Jésus est là. Et il apporte la paix. Nous avons là juste un bref résumé de ce qui s'est dit dans ce moment. Si on lit que ça, on dirait que c'est presque un spot publicitaire. Mais non, il y avait beaucoup plus. Je peux imaginer les rires, les pleurs, les éclats, les échanges. Oh, tout ça est donc bien vrai. Et les disciples doivent être ébahis devant Jésus. Ce que l'évangéliste Jean a retenu et qu'il nous transmet, c'est cette parole de Jésus qui dit « Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie ». Recevez le Saint-Esprit et allez. La résurrection est un envoi. La résurrection est une ouverture. Et nous sommes tous appelés, quel que soit notre âge, notre lieu, à aller et être à la suite de Jésus, des personnes qui donnent la bonne nouvelle. J'aime beaucoup ce mouvement de Dieu qui envoie son Fils et qui vient sur la terre. Et ensuite, bien le Fils, alors qu'il a donné tout ce qu'il avait, c'est-à-dire sa vie, eh bien, il envoie ceux qui le suivent. Et nous sommes ainsi tous inclus dans ce mouvement d'envoi. C'est un mouvement qui a commencé dans le ciel et qui est partagé par Jésus. Et nous sommes inscrits dans ce mouvement pour aller, remplis de l'Esprit. Ce mouvement trinitaire de toute éternité nous rejoint là où nous sommes et nous permet d'aller et d'être les envoyés du Christ. Hier matin, sur la place du village, du marché de Carouge, nous étions comme envoyés. Quand on pense envoi, ce n'est pas simplement d'aller à l'autre bout de la terre. Parfois, c'est l'appel de certains. Mais la plupart du temps, nous sommes envoyés là où nous habitons, là où nous servons. Et hier matin, nous étions envoyés sur la place de Carouge. Et plusieurs d'entre nous avons pu participer à ce moment où nous avons distribué le journal Un quart d'heure pour l'essentiel, nous avons accueilli les enfants pour peindre des œufs, nous avons partagé ce que nous étions. Et j'ai été particulièrement touché parce que jeudi, j'ai dit à Joy, oh, il faut vite qu'on rappelle tous les gens qui se sont inscrits, qu'ils n'oublient pas quand même. Et puis il y avait un nom qui était là, Camilla. Puis je me suis dit, mais c'est qui Camilla? Puis finalement, Joy me dit, ah mais c'est la fille de Ruby et Louis. Ah ouais, mais bon, on n'a pas son numéro. Eh bien, je vous dis que samedi matin, hier, à 10h, Camilla arrive. Elle a 10 ans, 11 ans, 12 ans. Camilla, est-ce que tu es là par hasard? Non, je ne sais pas si elle est venue ce matin. Non, elle n'est pas là. Mais j'ai été tellement touché de la voir arriver pour servir. Elle avait entendu cette annonce qu'on irait sur le marché et qu'on servirait. Et elle, elle s'est inscrite sur la liste. Et à 10h, elle arrive avec son sourire. Et elle est venue aider. Camilla, 10 ans, 11 ans, envoyée par Jésus. Camilla, 10 ans, 11 ans, exemple pour nous tous de se laisser envoyer par Dieu et de rayonner là où nous sommes. Jésus ajoute, « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Cela signifie simplement que Jésus, c'est Jésus qui effectivement pardonne, mais nous, nous sommes les envoyés et nous annonçons l'Évangile. Et alors que nous disons l'Évangile de multiples manières, ceux qui reçoivent ce mot sont pardonnés. Et ceux qui refusent ou qui rejettent, eh bien, ne le sont pas. Mais c'est Jésus qui pardonne. C'est Jésus qui offre la vie. Et nous faisons partie de ce mouvement de vie. La résurrection, c'est un envoi. C'est la vie.
Pardon, je lis les versets suivants, donc les versets 24 à 29. Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt, et si je ne mets pas dans ma main son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées, se tint au milieu d'eux et dit, « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Donc, Thomas, dans ce passage, c'est un des témoins de la résurrection, mais c'est aussi un personnage clé en ce qui concerne le thème de la foi. Il faisait partie des 12 disciples, donc des 12 hommes, qui ont accompagné Jésus à travers de son ministère, au travers de son ministère sur terre, et puis qui est devenu aussi un de ses témoins. Donc, à ses côtés, il a été enseigné, il a vu les miracles, et il le reconnaissait aussi comme Messie. Malheureusement, force est de constater que quand on parle souvent de Thomas, son personnage il est assez méprisé et il est utilisé aussi comme un mauvais exemple. C'est un peu celui qu'on résume comme l'incrédule qui avait besoin de voir Jésus pour croire vraiment qu'il était ressuscité. Or, c'est sur la base de la foi en Jésus-Christ ressuscité dans sa vie qu'on reçoit le salut, n'est-ce pas? C'est d'ailleurs aussi ce que dit Paul à l'église de Corinthe dans 2 Corinthiens 5, 7, où il dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue ». Donc la foi, elle a une valeur qui, par principe, est indépendante du sens de la vue. Si on se rappelle aussi dans Hébreux 11, les versets 1 à 2, il est dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Du coup, là, le témoignage de Thomas, il ne semble pas très bon. Ce n'est pas terrible. Si on se fie à ce récit et surtout l'interprétation générale qu'on entend de ce récit. Mais Thomas, ce n'est pas quelqu'un de mauvais ou même qui a été disqualifié, même dans ce récit. Comme il était disciple, il connaissait personnellement Jésus et il l'aimait d'un amour qu'on peut même qualifier d'assez radical. Et c'est ce qu'on voit un peu plus tôt dans Jean 11, où Jésus et ses disciples ils sont à Béthanie. C'est le récit de la résurrection de Lazare. Et Jésus dit à ses disciples qu'il faut retourner en Judée. Mais ses disciples, ils ne sont pas très, favorables, parce que la dernière fois qu'ils étaient en Judée, on a essayé de lapider Jésus. Mais Thomas, même face à cette annonce de retourner en Judée malgré la persécution, il dit aux autres disciples, « Allons aussi afin de mourir avec lui. » Et Jésus, dans le chapitre 15, il dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Donc Thomas, ce n'est pas un disciple indigne et quelqu'un de profondément incrédule. C'est quelqu'un qui avait clairement le cœur à mourir pour son maître, à aller jusqu'à la mort avec lui et pour lui. Mais ce texte nous raconte quelque chose d'un peu différent de son personnage. Donc on va prendre juste quelques éléments de contexte pour comprendre pourquoi Thomas, alors qu'il voit Jésus, ou qu'il attend de le voir aussi, réagit de cette façon. Donc tout d'abord, avant la mort à la croix, Jésus avait annoncé à ses disciples qu'il allait revenir, qu'il allait ressusciter, mais il n'a pas dit qu'il le ferait exactement en 3 jours. Au tout début de l'évangile, alors qu'il est en train de répondre aux Juifs qu'il pourrait relever le temple en 3 jours s'il était détruit, personne ne comprend encore qu'il parle de son propre corps. Donc lorsque Jésus parle ensuite de son retour, les disciples, et Thomas y compris, comprennent qu'il reviendra à la fin des temps, ressusciter tous les morts et continuer l'éternité avec toutes celles et ceux qui l'auront suivi. Ensuite, Thomas, c'est quelqu'un qui aime tout ce qui fait sens. Il aime bien ce qui est, on va dire, logique. Dans Jean 14, quand Jésus annonce qu'il va s'en aller, qu'il va préparer une place pour ses disciples et revenir ensuite, Thomas y répond « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Donc lui, dans une perspective logique, il dit « Mais Seigneur, tu dis que tu pars, qu'on doit suivre un chemin, mais déjà tu vas où ?» Tu vois. Donc il faut être concret avec nous. Finalement, le verset 24 de ce chapitre 20 dit bien que Thomas n'était pas avec eux lorsque Jésus vint pour la première fois. Il n'a pas assisté à ce premier moment où Jésus est venu puis qu'il a déclaré que la paix soit avec vous. Donc quand les autres disciples lui racontent ce qui s'est passé, c'est compréhensible qu'ils se disent « Non, 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 mais moi je ne crois pas, je verrai quand j'aurai vraiment vu les stigmates, le côté, et que c'est vraiment les marques de mon Jésus qui est ressuscité. » Ensuite, il y a 8 jours qui s'écoulent, et pendant ces 8 jours, il ne se passe rien. En tout cas, il n'y a rien qui nous est dit. Donc on s'imagine que Thomas a dû beaucoup cogiter sur ce qu'avaient dit ses amis, et qu'il n'était pas forcément en paix. Et pourtant, Jésus réapparaît à tous, dont Thomas, et dit « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Je ne sais pas si vous imaginez si Jésus vous apparaît avec ses stigmates et qu'il vous dit « Regarde, mets ta main là, là où c'est ouvert, où il y a la plaie ouverte, mets ta main dans mon côté, à l'intérieur. » C'est assez particulier. Mais les disciples, ils avaient déjà vu Jésus une fois. Donc, il n'y a pas matière de vraiment reprocher quoi que ce soit à Thomas. Parce qu'en plus, Jésus avait directement montré ses mains et son côté aux disciples. Donc, c'est facile de s'en prendre à Thomas en disant que c'est un peu l'incrédule. Mais j'aime beaucoup la réponse de Jésus parce qu'elle a un côté un peu ironique. D'abord, il lui fait comprendre que ce n'est pas nécessaire qu'il le touche. Car sans même l'avoir touché, Thomas répond directement « Mon Seigneur et mon Dieu ». Donc, il le reconnaît par la vue. Mais Jésus il va encore plus loin et il dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. » Donc, il n'est pas en train de condamner Thomas parce qu'en le voyant, il l'a cru. Il avait fait de même pour les disciples, comme je l'ai dit. Mais Jésus, il vient instaurer une vérité qui est fondamentale pour tous les chrétiens, pour toutes les personnes qui croient en lui. C'est ce qu'il dit à la fin du verset 29. « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Comme on l'a vu, Thomas était un des 12 disciples de Jésus-Christ. Il avait été enseigné par lui, il avait vu ses miracles, il le reconnaissait comme Messie. Mais surtout, il était un des plus intimes de Jésus en tant que disciple. Il le voyait quotidiennement et certainement qu'il l'avait touché. Mais cela ne lui a pas suffi pour croire que Jésus était vraiment ressuscité. Toucher, voir, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ne suffit pas pour avoir la foi. Et c'est un défi qu'on peut rencontrer au quotidien parce qu'en tant qu'être humain, on aime les choses concrètes. On aime les choses tangibles, les preuves, les signes. Donc on est un peu tous, on a été, on est, on sera peut-être encore comme Thomas. Donc c'est vrai que les signes, etc., ça peut booster, soutenir notre foi, car Dieu est puissant, puis il se manifeste aussi au travers de cela quand on place notre foi en lui. Mais les circonstances de nos vies ou les signes ne peuvent pas être le fondement de notre foi. Elles peuvent en être le résultat, mais pas la fondation. Les choses changent et les circonstances ne s'alignent pas tout le temps comme on le voudrait. Mais Dieu, lui, ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans Jean 14, au verset 1, Jésus disait déjà « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en moi, croyez en Dieu et croyez en moi. » Donc c'est comme ça que tous ceux qui croient en Jésus, qu'il est vraiment ressuscité, mais qui n'ont pas eu besoin de le voir pour le croire, sont heureux. Et je crois que ça concerne beaucoup d'entre nous ce matin, qui n'avaient pas forcément... À moins que vous ayez vécu plus de 2000 ans, en tout cas, ce n'est pas mon cas, mais qui, 2000 ans après, ayant entendu l'Évangile, ont cru et ont reçu Jésus dans leur cœur, dans leur vie, ainsi que le salut.
Et finalement, nous sommes presque au bout du récit de l'Évangile selon Jean. À la suite de ce passage, Jean écrit encore « Jésus a accompli en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Est-ce que l'équipe de louange peut se préparer? Et finalement, ça appuie ce qui vient d'être dit en lisant ce récit de l'Évangile. Et les quelques signes qui nous sont montrés, puisque Jésus en a fait bien d'autres, cela est suffisant pour croire que Jésus est le Messie et le Fils de Dieu. Et chacun d'entre nous, où que nous soyons, nous sommes invités à croire en Jésus, à croire qu'il est le Fils de Dieu. Et en croyant cela, nous avons la porte ouverte sur l'éternité. Nous avons la vie en Jésus-Christ. Et c'est cette victoire et c'est cette vie que nous célébrons ce matin en étant ici. Et à la suite de Thomas, à la suite de tous les autres disciples, nous voulons encore chanter et proclamer cette vie. Et je vous invite à tous prendre cette vie. Et si vous vous dites, mais où en suis-je? Que dois-je faire encore? La réponse est simple. Croyez que Jésus est le Fils de Dieu et vous serez sauvés. Amen.